petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est, mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. C'est ce qu'on peut lire dans les premiers vers de la promenade de Picasso de Jacques Prévert dans le recueil Paroles. L'image perçue de la pomme est d'emblée plurielle. L'apparence de la pomme est multiple. Je cite à nouveau Prévert. Et la voilà, c'est-à-dire la pomme, qui tourne dans une assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. C'est dire que, qu'en même temps, les images perçues se mêlent aux images imaginées, embrouillées dans une foule de métaphores, d'analogies culturelles. Et à nouveau, Prévert dit, dans son poème, « Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre et Ève et puis Adam, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie, le serment du jeu de pomme et le serment du jus de pomme, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. » Où est donc passée la pomme réelle? S'il existe une pomme réelle, elle n'est pas faite en image peinte, elle est faite en pomme. C'est ce que ne comprend pas le peintre de la réalité. Et Prévert d'ajouter, en terminant, Picasso, qui lui n'est pas un peintre de la réalité, Picasso, qui passait par là, mange la pomme et la pomme lui dit merci. Tous les sens du mot imagination se télescopent dans ce poème humoristique de Prévert. Du souci d'identification parfaite de l'image perçue, à l'altérité délirante de l'imagination créatrice, en passant par les images souvenirs, elles-mêmes images de réalité complexe. L'imagination, cette faculté psychique de produire des images mentales, est-elle en quête de cerner des identités ou de s'ouvrir à l'altérité? Est-elle donc apollinienne ou dionysiaque pour parler comme Nietzsche? Quand l'imagination donne dans l'imaginaire, c'est alors que l'altérité prend tout son essor, déformation, métaphore, multiplicité, évasion, voire autrement changement, incohérence, dépaysement, subjectivité l'emportant sur l'objectivité, etc. Toute image est d'origine sensorielle, et par ce biais, au contact physique des choses. L'image visuelle, je vois cet arbre par exemple, nécessite l'œil. On peut même parler d'image acoustique, d'image olfactive, d'image gustative, d'image tactile dès la perception. Et Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, a su mettre en évidence les correspondances, c'est lui qui emploie ce mot, les correspondances et la cohésion sensorielle de tous les sens. D'autres auteurs diront par exemple que le rouge est comme un coup de trompette. Cette sensibilité est en tant que telle sensualité, s'agissant du plaisir ou du déplaisir qui lui sont intrinsèques. C'est ainsi que les arts, tous les arts, avant d'accéder éventuellement à la spiritualité, cultivent cette sensualité. Tous les arts proviennent d'abord d'une activité sensorielle, peinture, sculpture, cinéma, musique, danse, poésie, parfum, gastronomie, etc. Cette sensorialité distingue l'image de l'idée, cette autre représentation mentale. Une autre différence entre l'image et l'idée est dans l'opposition entre le particulier et l'universel. Pensez l'idée de chien. je parle bien de l'idée là, c'est se représenter une idée universelle de mammifères, vertébrés, supérieurs, carnivores, domestiques, etc. L'idée représente tout chien, n'importe quel chien, tous les pelages et toutes les tailles. Et en même temps, aucun pelage précis, ni aucune taille précise. Elle représente l'universalité du chien. Il n'y a pas dans l'idée l'image sensorielle. Mais quand je vois un chien, je ne vois pas un chien abstrait, je vois un animal très particulier qui a tel pelage, telle taille, telle allure. Je suis en présence d'une image visuelle. L'imagination peut même déformer la réalité pour paradoxalement être fidèle à la réalité. Dans Sens et non-sens, Merleau-Ponty explique que les assiettes peintes par Cézanne, le peintre, ne sont ni rondes, comme dans la réalité, ni ovales, comme on les voit en perspective sur une table, par exemple. Dans les deux cas, le cercle et l'ovale, si je les peins comme ça, un cercle ou un ovale, se figeraient comme tels et ne représenteraient pas la réalité perçue. Cézanne les peint au contraire flou, oscillant, hésitant entre cercle et ovale et coloré en bleu pour faire vrai. L'image est construite, elle n'est jamais donnée, reçue, surtout l'image matérialisée par la peinture. Dans l'esthétique, un ouvrage de Hegel, celui-ci, Hegel, 1770-1831, montre que l'image même très fidèle, il prend l'exemple de la peinture hollandaise, déréalise en quelque sorte l'objet. Je le cite, « Au lieu d'une laine, d'une soie réelle, de cheveux, de verre, de viande et de métaux réels, nous ne voyons en effet que des couleurs à la place de dimensions totales, c'est-à-dire en trois dimensions, nous ne voyons qu'une simple surface et cependant, l'impression que nous laissent ces objets peints est la même que celle que nous recevrions si nous nous trouvions en présence de leurs répliques réelles. Excusez-moi. Et à cet égard, au XXe siècle, le fameux tableau du surréaliste peintre belge Magritte, représentant parfaitement, une pipe, et sur lequel, sur ce tableau, est soigneusement écrit « Ceci n'est pas une pipe ». L'image n'est pas la chose. Mais loin d'une déréalisation de la chose, contrairement à ce que disait Hegel, peut-être, et même Magritte, elle fait exister la pipe de façon désintéressée, l'image fait apparaître de l'apparaître, et non plus une pipe qui se fume. Lorsque Picasso, dans sa période cubiste, imagine des femmes aux formes disproportionnées, tracées en lignes simples, mélangeant face et profil et en couleurs disparates, trahit-il la réalité perçue? On peut certes y voir une déconstruction de la réalité, certains l'ont vu. Mais je ne suis pas d'accord, on peut y voir aussi une reproduction de la réalité telle qu'elle a été perçue. En effet, si je décris dans un courriel à un ami la femme éblouissante que j'ai croisée dans la journée, je vais faire du Picasso sans le savoir, je lui parlerai d'abord de ses yeux, puis de ses jambes, puis de ses cheveux, puis de sa cambrure, puis de son éclat, mais jamais peut-être de ses joues, de son front, de son menton, des détails méticuleux de ses formes, je la décrirai à grands traits en exposant des éléments juxtaposés et sans perspective. Dans mon courriel, mon ami n'y verra aucune déconstruction. Il y verra la peinture d'une réalité. Il percevra une altérité. C'est ma prise de recul qui ne le gêne pas. Au contraire, l'image cubiste peut être fidèle à la réalité objective, même si la subjectivité fait un tri l'image picturale est d'abord une image mentale. En peinture, elle peut surprendre alors qu'elle est mentalement ordinaire. L'altérité à l'œuvre dans la prise de recul de l'imagination peut même aller jusqu'à inverser le rapport logique de l'image et du modèle. S'agissant de peindre la réalité, l'image picturale doit ressembler au modèle. Mais l'artiste remarque ce que le simple passant ne remarque pas. Par son recul qui le délivre des soucis de l'action, de la banalité, des habitudes routinières, il donne à voir ce qui n'était pas vu. Du coup, on dira d'un paysage de Provence qu'il ressemble ici à un Cézanne et là à un Van Gogh. Et sans s'apercevoir que finalement, on n'est plus du tout dans la bonne imitation. C'est évidemment le tableau qui imite la réalité, et non pas l'inverse. Je dirais aussi que la réalité dite objective n'échappe pas aux aléas culturels, ni naturels d'ailleurs, de la subjectivité. Un steak tartare, est objectivement une viande crue, mais il est d'emblée tout aussi mythique selon le sens que le structuraliste Roland Barthes donne à ce mot, et je cite un passage de Roland Barthes dans Mythologie, le steak tartare donc, c'est la purée sanguine et le glaireux de l'œuf, tout un concert de substances molles et vives, une sorte de compendium significatif des images, tenez-vous bien, de la prépartition, c'est-à-dire du sens mythique de l'évacuation du placenta. L'imaginaire du mythe structure de façon subliminale la réalité de la chose et fait partie de cette réalité, y compris dans ce qu'elle a d'universel.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.